Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. La ville de Goma s'est réveillée ce mercredi sous le choc d'une attaque ciblée des drones kamikazes. Ces bombardements ont principalement frappé une résidence privée au quartier Katindo, touchant aussi des habitations voisines. Les détails dans quelques instants. Province du Sud Kivu, la zone de santé de Mwenga fait face à une épidémie de choléra. 28 cas ont déjà été enregistrés, dont 5 décès répartis dans 3 aires de santé. Dans la région de Beni, Butembo et Lubero, au Nord Kivu, la lutte contre les VIH-Sida demeure un enjeu majeur de santé publique dans un contexte marqué par l'insécurité et les déplacements répétés des populations. Pour en parler, nous recevons le docteur Nikez Maté, le coordonnateur du PNLS pour la région de Beni, Butembo et Lubero. Encore une fois, bonjour à tous. Au Nord Kivu, la ville de Goma s'est réveillée ce mercredi sous les chocs d'une attaque ciblée de drones kamikazes. Ces bombardements ont principalement frappé une résidence privée au quartier Katindo, touchant aussi des habitations voisines. Cette attaque est la première à toucher directement un quartier non périphérique de la ville de Goma depuis la fin des combats de l'année dernière lorsque la ville est passée sous contrôle de l'FC M23. Sur place, les habitants contactés condamnent fermement cette escalade de la violence observée depuis quelques semaines dans la province et appellent au règlement du conflit par la diplomatie. Plus de détails avec Alain Irungmouchi.
C'est aux environs de 4 heures du matin que ces explosions ont été enregistrées. Si certains voisins du lieu touché disent n'avoir rien entendu, d'autres affirment avoir clairement perçu le bruit de l'attaque. Sur place, les débris témoignent de la violence de l'impact. Jusqu'à présent, il est encore difficile d'établir avec certitude l'origine de ces frappes. Les habitants de Goma rencontrés ce matin à travers la ville espèrent qu'une enquête indépendante pourra établir les responsabilités. En attendant, la vie suit son cours. Les activités sont normales dans la ville, les écoles ont ouvert leurs portes, la circulation est fluide et les commerces tournent. Devant une école primaire du quartier Imbi, des parents rencontrés ce matin expliquent qu'ils n'ont pas informé leurs enfants du drame pour ne pas les perturber en cette période d'examen. Pour eux, il est impératif que les acteurs impliqués fassent de leur mieux pour ne pas imposer à la population le traumatisme d'une nouvelle guerre urbaine. Dans une ville où l'on tente simplement de survivre, nous n'avons pas besoin du bruit des armes, a lâché une maman qui venait de déposer son enfant avant de rejoindre le quartier Biréré où elle tient une pharmacie.
Pendant ce temps, les Nations Unies et l'Union européenne réaffirment leur engagement à soutenir les autorités provinciales dans les efforts de paix et de stabilité en Ituri. Dans un communiqué de presse publié mardi 10 mars à Kinshasa, le système des Nations Unies et l'équipe Europe en République démocratique du Congo disent vouloir renforcer leur appui à la protection des civils, à la cohésion sociale et aux solutions durables face aux défis sécuritaires persistants dans cette province de l'Est du pays. Martial Kizabiamongo.
Selon les deux missions coordonnées du système des Nations Unies et de l'Union européenne, la province de l'Ituri, située dans l'est de la RDC, est considérée comme stratégique, reste fortement touchée par les violences armées. Ces violences continuent d'entraîner des déplacements massifs des populations. Mais malgré cette situation, les partenaires internationaux estiment que la province présente aussi des opportunités pour la stabilisation. Dans ce contexte, ils soulignent que la nouvelle stratégie provinciale pour la paix et la stabilisation constituent une avancée importante vers une approche intégrée combinant l'humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Les deux missions s'allient également la disponibilité du gouverneur des provinces et de son équipe dans la coordination des acteurs humanitaires, des développements et de la paix à l'Ituri. Elles réaffirment leur volonté d'accompagner la mise en œuvre de cette stratégie de manière inclusive et cohérente tout en accordant une attention particulière à l'égalité du genre et à la participation des femmes. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
À Kinshasa, après l'attaque qui a semé la panique dans le quartier Bibois, dans la commune de Lancélé, la population restait sous le choc. Dans la nuit du 9 mars, des hommes armés ont opéré pendant près de deux heures sans s'en prenant à plusieurs parcelles situées pourtant à proximité d'un poste de police. Des habitants dénoncent l'absence d'intervention des forces de l'ordre pendant l'attaque et réclament des explications des autorités. Une situation qui a paralysé les activités dans le quartier où plusieurs commerces sont restés fermés ce mardi matin. De son côté, le bourgmestre de la commune du Lancélé appelle la population au calme. Mbo Nzolameso affirme qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et assure que des dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité, notamment à travers des patrouilles nocturnes. Il l'a déclaré au micro de Nancy Atambo.
Les uns des communaux qui ont ferré la nuit du 8 au 9 à Biboua, dont ils ont eu à visiter pas mal de maisons, et à qui ils ont eu en porte le bien matériel. Ils ont tapé la crosse, disons, d'une arme au niveau de la tête. Et beaucoup plus des cas de vol à qui ils ont emporté des ordinateurs de la population en attendant aussi des opérations mobiles qui se font pendant la nuit et des patrouilles. Donc, je peux dire actuellement la situation demeure un peu calme. Il n'y a pas l'état de mort d'hommes qui ont été signalés. Parce que moi-même, j'ai eu à effectuer des descentes, j'ai visité. Mais les cas de décès, on n'a pas réussi un cas. À la population d'être calme, qui se tranquillise parce que le bourgmestre a déjà pris des dispositions. Oh, je vous ai dit hier, j'ai eu à installer déjà, à laquelle on a mis la garde publique et qu'on puisse la policier. Ils sont là pour patrouiller la nuit. Cette équipe est en train déjà de travailler. La population, soit qu'elle m'arrête pour accompagner les actions ou les temps du bourgmestre, ainsi dénoter tous les malfrats qui sont en train de déranger notre population.
Dans la province du Sud Kivu, je le disais en titre, la zone de santé de Mwenga, située dans le territoire du même nom, fait face à une épidémie de choléra. 28 cas ont déjà été enregistrés, dont 5 décès répartis dans 3 aires de santé. Le médecin-chef des zones de santé de Mwenga assure que des mesures préventives ont été mises en place par l'équipe cadre afin de contenir la propagation de la maladie. Toutefois, le docteur Kos Konemon déplore la faible couverture en eau potable dans la zone, un facteur qui favorise la résurgence du choléra. On écoute cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
L'épidémie de choléra a été déclarée dans la zone de santé de Mwenga à la 9e semaine épidémiologique de cette année par l'administrateur du territoire de Mwenga. Et cela, c'était après la confirmation biologique de 5 échantillons sur les 8 prélevés. La zone a déjà enregistré à ce jour 28 cas, dont 5 décès, 3 dans la communauté et 2 dans les établissements de soins de santé. Les cas ont été notifiés dans 3 aires de santé, Diganda, Tuseswa et Kalole. Disons que la zone de santé a déjà bénéficié d'un appui de la DPS Sud Kivu, constituée de 150 litres de Ranger lactate, des trousses de perfusion et chlore. Malgré l'appui de la DPS en intrant, la zone n'a pas de CTC pour une bonne prise en charge des cas. Signalons aussi que la couverture de la zone de santé en eau potable est trop faible.
Et puis cette alerte de la Commission nationale des droits de l'homme dans la province du Haut-Katanga. 120 enfants en rupture familiale sont gardés dans de mauvaises conditions dans les installations de la police d'investigation criminelle de Lubumbashi. Depuis un mois, révèle la CNDH. Elle a effectué une descente à la police pour s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent ces enfants. Je vous rappelle que ces enfants ont été interpellés par les autorités de la province dans le cadre de l'opération dénommée Zéro Chégué. Le coordonnateur provincial de la CNDH décrit des conditions et soulève la question de la légalité des détentions de ces enfants. Maître Joseph Kongolo s'exprime au micro de Paul Monanga.
Sur ces 120 enfants, en majorité, ce sont vraiment des mineurs.
Les enfants n'ont pas droit au bain. Depuis qu'ils sont là, ça fait un mois, ils ne se lavent pas. Ces enfants sont là présents avec des présumés criminels. Les enfants dorment à même le sol, sans couverture, sans matelas. Ils sont dans l'hangar. En fait, à la BCRS, il y a un hangar et puis il y a de celui. L'hangar n'a pas de vitre. Ça pose un problème par rapport à leur exposition contre les intempéries. Et les enfants ont déclaré, parmi eux, non seulement il y a des malades qui ont été évacués, il y a aussi d'autres malades qui sont là, mais il y aurait aussi des morts. Information qui n'a pas été confirmée. C'est un cachot de la police. Pourquoi ces enfants sont là? S'il y avait des enfants en conflit avec la loi, leur juge naturel, c'est le tribunal pour enfants. Et les autres enfants qui ne sont pas en conflit avec la loi, ils doivent être retournés dans leur famille, placés dans des centres d'accueil pour enfants reptiles familiales. La CNDH exige au gouvernement provincial qui a amené les enfants là-bas de les sortir de là rapidement, sans condition.
Inquiétude à Kisangani, le journaliste Serge Sindani, directeur du média en ligne KIS24.info, boucle aujourd'hui son sixième jour de détention dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Depuis son interpellation mardi dernier, il est maintenu au secret. Aucune visite n'est autorisée, ni celle de sa famille, ni celle de ses avocats. À ce stade, aucune information claire n'a été communiquée sur les motifs de son arrestation. Les organisations de défense de la liberté de la presse exigent sa libération immédiate ou, à défaut, son transfert devant un juge. Hausse du prix de carburant dans la ville de Kisangani. Depuis lundi dernier, le litre d'essence est passé de 3700 à 4000 francs congolais. Cette augmentation profite aux revendeurs communément appelés Kadhafi. Selon plusieurs témoins, ces derniers pratiquent une spéculation effrénée, proposant la même quantité d'essence à 5000, 6000, voire 10 000 francs congolais. Aucune justification économique n'a été avancée pour expliquer cette flambée. En revanche, ses conséquences sont bien visibles. Le portefeuille des ménages est directement touché et les cours de transport s'envolent. Les explications de Jacques Moukonkolé.
C'est une douche froide pour la population. Alors que les stations-service ont augmenté le prix d'un litre d'environ 3000 francs congolais, chez les Kadhafi, c'est l'envolé. Le prix de transport explose. Témoignage d'un élève.
Parfois, maman me donne 2000 francs aller et retour. Et aujourd'hui, les prix du moteur ont augmenté à 1500. Donc je suis obligé de rentrer à pied et de payer le 1500 pour aller.
Sur le marché, les prix des denrées de première nécessité commencent à frémir.
Ça aura eu aussi l'impact sur les prix des denrées alimentaires. Les transports, les marchandises qui quittent, je donne un exemple, des Bounia jusqu'à Kisangani. Quand il y a déjà les prix des carabins qui augmentent, ça aura déjà un impact sur les denrées alimentaires.
Face à la grogne, le gouvernement sort de son mutisme par un communiqué. Il condamne ces hausses injustifiées et promet des sanctions exemplaires contre les opérateurs récalcitrants. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, les stations-service ont rouvert leurs portes après 5 jours de fermeture. Une situation qui avait provoqué une pénurie de carburant dans la ville. Les opérateurs pétroliers et les autorités provinciales se sont finalement entendus sur un nouveau prix à la pompe. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Toutes les stations-service ont repris leurs activités mardi soir à Beni après 5 jours de fermeture. Cette décision fait suite à une réunion entre les opérateurs pétroliers et les chefs de la division provinciale de l'économie. À l'issue de ces échanges, les deux parties se sont accordées pour fixer les prix du litre d'essence et des gasoils à la pompe à 4500 francs congolais contre 3200 francs auparavant. Les opérateurs économiques avaient fermé les stations-service en évoquant des difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers. Selon eux, les carburants destinés à la région de Beni, Butembo et Lubero est principalement acheté dans les villes kenyanes d'Eldoret et de Kisumu où le prix du mètre cube serait passé de 650 à 1200 dollars américains. Une hausse qu'ils attribuent notamment à la guerre contre l'Iran et à ses répercussions sur les marchés internationaux. Toutefois, au sein de l'Association des pétroliers de Beni, l'on souhaite que le gouvernement congolais prenne des mesures pour anticiper ces types de situations. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, l'armée du président Salva Kiir est entrée brièvement dans la ville d'Akobo mardi 10 mars avant d'en être repoussée par les forces d'opposition. Frontalière de l'Éthiopie, Akobo, dans l'est du Jonglei, a été un bastion du mouvement de Riek Machar lors de la guerre civile en 2013. Après un ultimatum des autorités, Akobo s'est vidé de sa population ce week-end en prévision de l'offensive gouvernementale.
L'invité.
Dans la région de Beni, Butembo et Lubero, au Nord Kivu, la lutte contre le VIH-Sida demeure un enjeu majeur de santé publique dans un contexte marqué par l'insécurité et les déplacements répétés des populations. Au cours de l'année écoulée, plusieurs centaines de nouvelles infections du VIH ont été enregistrées dans la zone, portant à 13 850 le nombre de personnes vivant avec les virus déjà détectés. Pour faire le point sur la situation actuelle, notamment sur l'état de la riposte au VIH-Sida ainsi que sur les difficultés rencontrées sur le terrain, nous recevons les coordonnateurs du programme national de lutte contre le SIDA PNLS pour la région de Beni, Butembo, Lubero. Les docteurs Nikes Maté s'entretient avec Martial Papimukeba.
Docteur Nikes Maté, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Pouvez-vous dresser un état des lieux actuel de la lutte contre les VIH-Sida dans la région de Beni, Butembo et Lubero et quelles sont les tendances récentes en termes de nouvelles infections et des traitements disponibles?
Nous sommes dans une zone avec une crise humanitaire. Malheureusement, pendant toute l'année 2025, nous n'avons pas eu des réponses appropriées en termes d'intervention. C'est-à-dire, il y a eu des coupes budgétaires qui n'ont pas facilité la tâche. Et malheureusement, nous avons constaté que les zones de santé nous ont rapporté de nouveaux cas VIH, un nombre assez important de nouveaux cas de malades. Ce que nous avons vécu de positif, c'est que pendant toute l'année, nous avons eu des antirétroviraux. Nous n'avons pas connu des ruptures, mais nous avons passé toute l'année sans approvisionnement en tests.
Et en termes des statistiques, quels sont les chiffres des personnes qui sont sous ARV et quelles sont les zones de santé les plus touchées dans la région de Beni, Butembo et Lubero?
L'année 2024, c'était 12 000 quelque chose. Mais l'année 2025, nous sommes arrivés à 13 850. Il y avait une certaine augmentation. Mais de ces chiffres-là, de 13 850, nous avons aussi enregistré beaucoup de perdus de vue. Les perdus de vue, ce sont des gens qui ont abandonné les traitements, des gens qui ne se sont pas présentés au rendez-vous, les gens qu'on a cherchés, mais qu'on n'a pas eu la possibilité de retrouver. Bien sûr, il y a eu des décès aussi dans toutes les tranches d'âge. Nous avions eu jusqu'à 180 décès des malades qui sont décédés. Et pour les décès, ce sont des négligents, des gens qui ont abandonné les traitements ou les gens qui n'avaient pas eu accès, mais qui ont été rapportés. Il y a d'autres qui sont décédés dans la communauté. Leur rapport n'était pas arrivé dans les établissements de soins.
Une augmentation d'environ 1000 PVV. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation des cas de VIH dans la région?
Il faut comprendre l'augmentation des cas par le fait qu'il y a eu un relâchement dans les mesures de prévention et les mesures de prise en charge. Et puis, il y a aussi la population qui a augmenté. C'est-à-dire, lorsque nous avons 13 000 qui sont identifiés et qui ont accès aux ARV, pour nous, c'est quand même quelque chose de gagné, parce que les 13 000 sont sous ARV. On arrive à maintenir ceux qui étaient là depuis les années et ils se sont ajoutés d'autres pour faire les 13 000 là. Ce n'est pas les 13 000 qui sont apparus en une année ou bien en un mois. C'est le cumul de toutes les années pendant lesquelles la lutte est en cours. Nous avons les deux grandes villes, Beni et Butembo, qui ont accueilli les déplacés de toutes les autres zones de santé et même il y a une population qui est venue de la partie sud fouillant les atrocités dans les autres territoires occupés. Voilà en gros ce qui peut expliquer une augmentation des cas sous ARV.
Et les malades ont quel âge?
Les tranches d'âge, c'est pratiquement dans toutes les tranches, mais ils sont concentrés entre 15 et 49 ans. Et c'est surtout une population féminine.
Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans les suivis et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, notamment dans les zones affectées par l'insécurité et les déplacements des populations?
C'est le défi du dépistage ou l'identification des malades. Vous savez que la première porte, c'est le test. Il faut dépister. Alors, les quantités de tests que les zones de santé ont reçues étaient nettement inférieures à leurs besoins. Vous vous imaginez une zone qui demande à peu près 40 kits. 40 kits, c'est l'équivalent de 4000 tests. Mais on lui octroie, par exemple, 20 kits. Vous voyez qu'on a reçu que 50% des tests qu'on avait demandé. Alors, le deuxième défi, c'est le dépistage des enfants. Vous savez que notre pays, il y a l'initiative du président pour la réduction et l'élimination du VIH chez les enfants. Mais par rapport à ça, il y a encore beaucoup de défis quant à ce qui est de la mobilisation des ressources. Il faut sensibiliser, il faut amener la population à comprendre la nécessité de s'aligner à cette initiative pour que ça puisse être pérenne.
Docteur Nikes Maté, merci.
C'était notre invité, le docteur Nikes Maté, qui s'entretenait avec Martial Papi Moukeba. Et c'est la fin de notre journal de la mi-journée, coordonné et supervisé par Alain Irong Mouchinj et mis en onde par André Mongou. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net ainsi que sur notre compte TikTok.